Vous écoutez la Deutsche Welle.
Partout où on est allé, les gens nous parlent des mêmes problèmes. Nos enfants n'ont pas de travail, nous n'avons pas suffisamment de centres de soins. Ils disent également qu'ils n'ont pas d'eau potable, qu'ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas la sécurité partout et qu'ils n'arrivent même pas à manger à leur faim. Ceux qui étaient censés apporter une réponse ont failli.
L'ADP Maliba s'est retiré de la majorité présidentielle en 2016. Au moment de la campagne en 2013, vous étiez l'un des principaux soutiens financiers du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi?
Nous, on ne l'a jamais caché. En 2013, on avait soutenu Ibrahim Boubacar Keïta pour la paix au Mali. Et au bout de 2 ans, 3 ans, on a vu tous les scandales qu'il y a eu dans le pays. Et nous, on avait même accompagné les processus des accords d'Alger. Mais force est de constater qu'il n'a pas été mis en œuvre.
Alors, votre programme officiel n'a pas encore été publié, mais quels sont les grands axes de ce que vous proposerez aux électeurs maliens pour remédier à leurs problèmes sociaux?
Vous savez, moi j'aime dire souvent que le Mali n'est pas un pays pauvre, mais que le Mali est un pays mal géré.
Oui, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des gisements, notamment en sous-sol.
Il y a des gisements en or, en fer, en bauxite, en phosphate, en manganèse. Bon, on ne peut pas avoir tout ça dans un pays et être pauvre.
Alors comment faire justement pour que ces richesses bénéficient également à la population malienne?
Moi je pense que ça ne va pas être très compliqué de trouver un emploi pour les jeunes au chômage. Bien sûr, il faut qu'ils soient prêts à certaines réconversions professionnelles, à de la mobilité géographique. Moi, je pense que le Mali a tout pour être une destination des jeunes désespérés d'autres pays, plutôt que d'être un grand pays fournisseur d'immigrants illégaux vers l'Europe ou vers d'autres destinations.
Qu'est-ce que vous proposez pour ramener la paix dans les régions du Nord et que l'État puisse aussi fonctionner normalement dans les régions de Kidal, de Tombouctou, de Gao?
Dans les accords de paix, les DDR...
Les programmes de désarmement et de réhabilitation, réinsertion.
Voilà, désarmement, démobilisation et réinsertion. Ça, c'est très important d'amener une bonne partie des anciens combattants dans le secteur économique. Et les bassins sédimentaires du Nord a déjà prouvé sa grande capacité donc à produire du gaz. De cette façon, on pourrait faciliter la réinsertion économique des anciens combattants, pas tous sur le plan militaire, mais beaucoup plus sur le terrain économique. Et il y a beaucoup d'autres activités, il y a des infrastructures routières à construire là-bas, c'est un secteur qui est très créateur d'emplois, donc on peut amener beaucoup de jeunes dans ces travaux-là. Pour moi, c'est important de former les jeunes de ces régions et qu'ils soient également utilisés dans la sécurisation de ces projets-là. Et je pense que ça réduirait beaucoup les risques d'attentats et les risques d'enlèvement, parce que ce seraient des projets gérés et opérés par des jeunes de la région. Et pour moi, ça c'est très important. Ça, on peut le faire en partenariat avec les Nations Unies et avec quand même des partenaires allemands qui ont aussi une expérience de très longue durée sur la formation professionnelle pour éviter le grand chômage des jeunes. Comme ça, on irait vers une forme de formation pour l'emploi plutôt que vers l'éducation pour le chômage de masse.
Quelle est l'attitude à adopter selon vous vis-à-vis des terroristes cette fois? Acmi est encore vivace, profère des menaces. Comment parvenir à en venir à bout et puis après gérer ces combattants-là?
Moi, je pense que l'économie criminelle qui se développe au Nord peut être combattue et les plans que moi je propose permet donc de faire émerger de vraies grandes fortunes dans ces régions et de faire émerger une vraie classe moyenne en utilisant les enfants de la région pour la recherche et l'exploitation des ressources que contiennent ces régions.
Et quelle réponse judiciaire donner à ceux qui sont rendus coupables de crimes parfois très graves?
Vous savez, de toute façon, On ne peut pas faire la paix sur l'impunité. Nous devons réconcilier tous les Maliens. Aucune communauté ne sera en dehors du processus de paix, de réconciliation. Mais il est évident que ceux qui se sont montrés coupables des crimes doivent être jugés.
Et vous pensez là à la justice internationale ou à la justice malienne ?
Je pense que la justice malienne peut gérer ces questions-là. Et ça doit être jugé au Mali, parce que la justice malienne n'est pas du tout complaisante par rapport à des auteurs de crimes.
J'ai encore une question qui concerne plus de la moitié de la population du Mali au moins, les femmes. Qu'en est-il du code de la famille ? Est-ce que vous le réformeriez ou pas ? Et si oui, dans quel sens ?
Le Mali est un vieux pays qui a été islamisé il y a plus de 1000 ans. Et maintenant, nous sommes dans une société où toutes les religions, toutes les ethnies et toutes les cultures vivent ensemble. Et d'ailleurs, dans notre parti, nous disons toujours que nous sommes pour une société multiculturelle, multiconfessionnelle et multiethnique. Et c'est sûr que pour venir réformer les fondements du vivre ensemble, ça, c'est pas une question à prendre à la légère. On ne peut pas se lever pour dire on vient changer tout cela. On doit tenir compte de l'enracinement religieux des Maliens et de leur culture, de leur histoire, pour décider comment, quelle est la meilleure façon de continuer de vivre ensemble. Et surtout, comment rétablir la confiance entre les citoyens et l'État. C'est à partir de là qu'on pourra décider et quel est le meilleur code pour le Mali. Mais moi, je n'ai pas l'impression que mes parents et mes grands-parents qui ont vécu avec le code coutumier des familles ont mal vécu ou nous ont mal éduqués. Donc moi, je pense qu'il faut faire très attention à toutes ces questions de réforme qui touchent la culture, la religion et l'histoire d'un pays. Donc ces leaders religieux ont un rôle, ces leaders religieux modérés ont un rôle important à jouer dans la stabilisation du pays.
Vous venez du monde de l'entreprise. En quoi est-ce que c'est un atout pour diriger le pays ? Ou en d'autres termes, est-ce qu'on peut diriger le Mali comme on dirige une entreprise ?
De par ma petite expérience, j'ai pu répondre à quelques questions auxquelles sont confrontés les Maliens aujourd'hui. Mes différentes entreprises, depuis un quart de siècle, ont créé quand même beaucoup d'emplois au Mali. Ça donne un peu d'espoir à la jeunesse malienne. J'ai pu construire avec ma fondation des écoles, des centres de soins. J'ai même fait des routes, des ponts, des digues de retenue d'eau pour les éleveurs. Et tout ça... Et je me suis rendu compte qu'être un homme politique aujourd'hui au Mali, c'est être très efficace sur la solution à apporter aux Maliens par rapport aux contraintes dans lesquelles ils vivent aujourd'hui au quotidien.
Donc vous ne craignez pas les grandes pointures politiques qui vont se présenter face à vous, les anciens premiers ministres ?
Non, moi chacun a un message pour le Mali et les Maliens, et puis c'est aux Maliens d'apprécier la valeur de ces messages et la portée que ça peut avoir, et puis l'espérance que ça peut leur donner et la confiance que ça leur inspire. Et on acceptera tous le verdict qui sortira des élections libres, transparentes et crédibles.